Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Médias et Culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Vous retrouverez évidemment notre Big Five, Hélène Manarino, Bertrand Chameroy, Eva Rock, Antoine Janton et Louise Bernard. Au programme, c'est selon, informer, cultiver, divertir. Oui, je sais, j'ai piqué le slogan à l'ORTF. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Et bien ça n'existait pas sous l'ORTF. Notre infomédia va se pencher sur le fonctionnement de l'Union européenne révélé par un documentaire exceptionnel à au moins 2 titres. D'abord, il résulte d'un an et demi d'enquête au cœur de la machine, au cœur du réacteur à Bruxelles. Ensuite, parce qu'il est diffusé ce soir en prime time sur France 2, nous serons avec Yann-Anthony Noguès, son réalisateur. Puis, nos invités, Philippe Gloagen, le fondateur du Guide du Routard, et Claire Léost, c'est la directrice générale de CMI, le deuxième groupe de presse français, et ils lancent un trimestriel, le Routard Magazine, en kiosque et sur abonnement. Ils nous diront pourquoi, alors que les guides et le site internet du Routard font déjà le plein. Enfin, Jean-Michel Guenassia pour son nouveau roman, Les Terres Promises, chez Albin Michel, en quelque sorte la suite du best-seller Le Club des Incorrigibles Optimistes, prix Goncourt des lycéens 2009. Énorme succès de librairie salué dans toute la presse, y compris par les critiques les plus pointues. Il y aura en prime son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Un journaliste français otage au Mali, Donald Trump reste banni de Facebook et puis de jeunes ruraux qui luttent pour s'insérer dans la société. C'est le sujet d'un excellent documentaire ce soir.
Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
Alors c'est assez serré, hein. C'était la même soirée télé que la semaine dernière et c'est le même classement. C'est M6 qui arrive en tête avec Top Chef, c'était l'épisode 13, 3 400 000 téléspectateurs, 15,4% de part d'audience, Top Chef qui est donc en hausse par rapport à la semaine dernière. En hausse également TF1 avec sa série The Resident. Les 2 épisodes inédits ont attiré 3 130 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. Vous avez vu, c'est assez serré. Et c'est serré également avec France 2, 3e avec sa série L'École de la vie qui est en hausse également. Tout le monde en hausse hein, cette semaine. 3 millions de téléspectateurs, 12,9% de part d'audience. À noter les bons chiffres de TMC qui diffusait Taxi et qui va diffuser les autres volets les semaines suivantes. 1 400 000 téléspectateurs, 6% de part d'audience. Et Arte avec le film Les Beaux Jours, Arte qui connaît des beaux jours décidément en ce moment, 1 450 000 téléspectateurs.
Culture Média. On passe au journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une un journaliste français retenu en otage au Mali.
Il s'appelle Olivier Dubois, il travaille pour Libération et France 24 notamment. Il a été enlevé à Gao il y a un mois, mais on ne l'a appris qu'hier. C'est lui qui le dit dans une très courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Enlèvement par ailleurs confirmé par le gouvernement. Olivier Dubois est détenu par le principal groupe djihadiste du Sahel, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Une alliance de groupes plus précisément, dont il allait interroger l'un des chefs, ce qui lui avait été fortement conseillé à plusieurs reprises. Une enquête préliminaire a par ailleurs été ouverte en France pour enlèvement en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste.
Donald Trump reste banni de Facebook et d'Instagram.
C'est la décision du conseil de surveillance de Facebook hier, un organe mis en place l'an dernier par le groupe pour statuer sur les sujets les plus sensibles, les plus délicats. Il a estimé que la suspension des comptes de l'ancien président américain était justifiée compte tenu de la gravité des violations et du risque continu de violence, explique-t-il. Les comptes de Donald Trump, je vous le rappelle, avaient été suspendus le 7 janvier dernier, au lendemain de l'assaut mené par quelques-uns de ses partisans contre le Capitole à Washington. Suspension justifiée donc, mais pas pour une durée indéterminée. Le Conseil parle là de peine arbitraire et demande à Facebook de la réexaminer dans un délai de 6 mois.
Et puis le focus programme du jour, c'est un documentaire diffusé ce soir sur LCP, la chaîne parlementaire. Le titre « Entendez-vous dans nos campagnes ».
Entendez-nous dans nos campagnes. Ah. C'est moi qui me suis trompé dans le titre, Philippe. Vous l'avez bien lu, voilà. Mais j'ai une petite coquille.
Voilà, on est en direct, voilà. C'est ça le direct.
Un film qui met en lumière la situation précaire de jeunes ruraux. Ils n'ont pas d'emploi, pas de formation, ils sont isolés socialement et géographiquement, certains n'ont pas le permis. Et pourtant, ils essaient de s'insérer dans la société. C'est ce que montre ce documentaire réalisé par Ilan Teboul. Il suit certains de ces jeunes âgés de 17 à 20 ans en Alsace. Il les suit dans une mission locale, celle de Molsheim, la ville la plus proche de là où ils habitent. Ils viennent y participer, entre autres, à des ateliers collectifs. L'effet de groupe est essentiel. Ilan Teboul.
Il faut bien imaginer que certains ne sont pas sortis de leur chambre depuis presque un an. Donc le jour où ils arrivent pour le premier atelier collectif, la pudeur est palpable. C'est-à-dire qu'on entend les mouches voler. prendre la parole, c'est très compliqué pour eux. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, ils se dérident, c'est normal. Et c'était très émouvant pour moi de les voir à nouveau faire société. C'est aussi pour ça que j'ai voulu donner à ce film le titre de « Entendez-nous dans vos campagnes », parce que j'ai trouvé tout d'un coup que ces invisibles réintégraient le récit national, refaisaient société avec nous. C'était la proposition qui leur était faite et c'était grisant pour eux. Et en effet, malgré toute la complexité de leur parcours, à l'arrivée, il y a de la lumière en fait.
Et ces ateliers mènent parfois des confidences très intimes sur leur vie que le réalisateur a su capter en se faisant oublier. D'ailleurs, il n'y a pas de voix off, seuls les jeunes s'expriment.
J'ai vraiment voulu leur donner la parole. Je me mets à distance, j'essaie de me faire oublier, et puis au fur et à mesure, je me fais accepter par ces jeunes. Ça n'a pas été tant que ça difficile d'avoir leur confiance. Évidemment, il y avait beaucoup de méfiance, ça c'est vrai. Ils ne comprenaient pas toujours ce que je faisais. Le jour où je rencontre ces jeunes, je leur explique que j'aimerais faire un film sur le collectif de la Garantie Jeune, et que s'ils ont un problème avec ça, qu'ils pouvaient me le dire, je ne les filmais pas. La plupart du temps, ils étaient plutôt d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'aventure était tellement intense pour eux qu'ils ont rapidement oublié ma présence, tout simplement.
Ces jeunes, vous pourrez les entendre dans le zapping d'Eva Rock dans une petite heure dans Culture Média. Entendez-vous dans nos campagnes, c'est bien le titre, documentaire d'Ilan Teboul, c'est ce soir à 20h30 sur LCP.
Télérama, condamné pour licenciement abusif.
Celui d'un journaliste accusé d'harcèlement sexuel, c'était en 2019. Les prud'hommes ont estimé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, bien que la bonne foi des salariés victimes ne puisse être mise en doute, écrit le Conseil. Cela dit, il estime que la véracité et la réalité des propos de ces salariés ne reposent sur rien d'objectif et de certain.
Un visage connu, mais un nouveau visage pour M6 pour incarner le football sur cette chaîne.
Oui, celui de Marie Portolano, la journaliste récemment recrutée par la chaîne pour animer Le Meilleur Pâtissier, présentera 100% Euro, magazine diffusé avant et après les matchs du championnat d'Europe que retransmettra M6 à partir du 11 juin. 11 matchs, dont la finale de la compétition. Au commentaire, le duo Xavier Domergue, Robert Pires et au bord de la pelouse, Karine Galli. Trois voix, trois visages maintenant bien connus des téléspectateurs d'M6.
Et le dispositif d'M6 ne s'arrête pas là.
Il y aura aussi de nombreux reportages dans les journaux de la chaîne et un numéro spécial de Zone Interdite, un long format sur la vie privée de certains joueurs de l'équipe de France. Autre élément, une nouvelle chaîne entièrement numérique, 100% foot. Elle sera disponible sur la plateforme Sisplay dès mardi prochain. Elle proposera de revoir 50 des meilleurs matchs de l'Euro, dont la finale de l'Euro 2000, commentée par l'un de ceux qui l'a remporté, Robert Pires.
50 des meilleurs matchs, ça fait 75 heures de foot, on a le temps. Trois pistes pour remplacer les amours sur France 2.
Trois jeux dont l'un pourrait prendre la place de cet autre jeu qui va s'arrêter le 2 juillet prochain, on vous en a parlé ici même dans ce journal. Trois projets qui sont actuellement testés, tous avec Bruno Guillon, l'actuel animateur des amours. Il s'agit de trois jeux de culture générale, une adaptation italienne et deux créations françaises.
Merci beaucoup Antoine Genton, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Luce Bernard, on vous retrouve tout à l'heure pour un indispensable, comme son nom l'indique, indispensable. Notre info média va s'intéresser aux coulisses des négociations européennes à travers le documentaire Bruxelles, ton univers impitoyable. Mais on va également parler du Sofagate qui a fait couler beaucoup d'encre dans le monde entier. Nous en parlons avec son réalisateur Yann-Anthony Nogues.
L'émission référence sur les médias.
Si l'Union européenne est souvent critiquée, c'est entre autres en raison de son fonctionnement. Il peut être perçu ce fonctionnement comme opaque, technocratique pour reprendre un mot utilisé par ceux qui l'attaquent. Et pour mieux l'expliquer, une équipe de journalistes dévoile ses coulisses. Cette équipe a passé près d'un an et demi au cœur du pouvoir européen. Elle a pu suivre au plus près, et c'est inédit, quelques-uns des plus hauts dirigeants européens, à commencer par le président du Conseil, le Belge Charles Michel. Des images rares, réunies dans un documentaire exceptionnel, diffusé ce soir. La diffusion également est exceptionnelle puisque ce sera en prime time sur France 2. Bonjour Yann-Anthony Nogues.
Bonjour Philippe.
C'est vous qui avez réalisé ce documentaire Bruxelles, ton univers impitoyable. L'Europe, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous suivez les affaires européennes depuis une quinzaine d'années pour BFM jusqu'en 2015 et puis pour la chaîne France Info aujourd'hui, c'est le canal 27. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce documentaire?
Déjà, on a voulu montrer ce que nous, on voit de l'Union européenne. Vous avez dit, l'Union européenne, c'est technocratique, ça embête tout le monde. En règle générale, ce sont des grandes façades vitrées avec des drapeaux. Quand j'étais correspondant pour BFM TV, j'étais là planté avec mon micro et devant l'institution, il ne se passait rien derrière moi. Là, on s'est dit, on va montrer aux gens ce qui se passe dedans, parce que dedans, sont des coups de théâtre, ce sont des intrigues, ce sont des rebondissements. C'est 27 cultures, 27 numéro 1 qui s'affrontent pour prendre des décisions qui engagent la vie de 500 millions d'Européens. Et réellement, c'est passionnant parce qu'en plus, il y a des sacrés personnages.
Ce sont ces 27-là, c'est ce qu'on appelle le Conseil européen où vous
Absolument.
Avez montré tout, plein d'autres choses.
Ce sont des sommets européens. Le Conseil ouais. européen, ce sont les sommets européens. C'est au Conseil européen que se rend régulièrement Emmanuel Macron, mmh. Angela Merkel. Et on a pu pénétrer dans la salle où... Angela Merkel, Emmanuel Macron et les 25 coachs, je faisais mes calculs parce qu'on est passé de 28 à 27 entre-temps, ouais. Prennent des décisions.
Ce qui est évidemment, vous allez nous raconter comment vous avez réussi ce tour de force de vous faire accepter. Le dirigeant qu'on voit le plus, c'est Charles Michel, ancien Premier ministre belge, devenu président du Conseil européen il y a un an et demi. Alors il a défrayé la chronique à l'occasion du Sofagate. on a beaucoup parlé, c'était en compagnie du président turc. Vous revenez justement sur cet épisode, mais d'abord, pour bien citer les choses, Charles Michel, qui a le rôle d'un médiateur. Il est là pour que les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union se mettent d'accord. Mission évidemment très souvent difficile, le mot est faible. Tout cela armé de son bon sens, de son sens du compromis. Il en faut quand on dirige la Belgique.
Et du bon sens aussi.
Voilà, parce que déjà, il y a plusieurs langues en Belgique. Et également armé d'une clochette. C'est ce que vous raconte le correspondant de Libération à Bruxelles, Jean Quatremer.
Son seul pouvoir constitutionnel, hein, c'est le seul qu'il ait, c'est organiser l'agenda et une clochette. Une clochette pour ramener le silence dans la salle. Quand tout le monde est en train de s'engueuler, ding, 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 messieurs, messieurs, restons calmes. Bonne chance pour dompter 27 fours avec sa clochette. Ding, ding.
Gling, gling, il a un rôle vraiment important, ça va au-delà de cette anecdote, le président du Conseil, où c'est semi-honorifique comme
Alors,
titre.
Vous avez dit, Philippe, vous avez dit, c'est un médiateur. Oui, c'est un médiateur, en fait, c'est un facilitateur d'accords. Sans lui, les 27, quand ils se retrouvent dans la salle, là, ils vont vraiment s'écharper. Lui, ce qu'il fait pour préparer les réunions, c'est qu'il parle avec chacun d'entre eux. Il va les voir, il leur téléphone. Maintenant, en l'occurrence, avec le Covid, ça se fait plutôt par visioconférence et par téléphone. Et il essaye de comprendre ce qu'eux ont en tête. Quelles sont leurs préoccupations nationales? Que pense leur opinion publique? Que pense leur parlement? Que pense leur presse? Et jusqu'où ils sont prêts à aller vers un accord. Ouais. Vers un accord pour le climat, vers un accord pour le fonds de relance, vers un accord sur les vaccins. Et donc, tout ça sont des enjeux très importants. Et c'est un facilitateur. Ce n'est pas un grand président. Ce n'est pas le président des États-Unis. L'Europe, ce n'est pas une fédération. Lui, il est là. Enfin, sur le papier, c'est un président. Mais ce que je veux dire, c'est que son rôle, ce n'est pas d'être un grand leader charismatique. Son rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des accords au niveau européen avec la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que s'il y a le moindre pays qui bloque, et qui ne veut pas d'un accord, il n'y a pas d'accord.
Ne vous inquiétez pas, on va parler des Polonais tout à l'heure. Charles Michel, vous l'avez suivi pour son premier Conseil européen. C'était 10 jours seulement après sa prise de fonction. Face à lui, 27 dirigeants, dont certains évidemment vont le tester. C'est le cas du Premier ministre hongrois, le populiste Viktor Orban. Que se passe-t-il à ce moment-là? Racontez.
Viktor Orban, vous voyez un petit peu qui c'est. C'est un nationaliste. C'est vraiment une des têtes dures en Europe. Et c'est le premier sommet de Charles Michel. Il ouvre la réunion. Il dit voilà, et comme la tradition veut que il accueille chacun. Et ceux qui viennent d'être réélus ou ceux qui viennent d'être nommés à la tête de leur gouvernement, il dit félicitations à un tel pour sa reconduction. Et il donne les noms. Et puis là, il y a Viktor Orban qui dit Charles, tu n'as pas cité Mateusz, qui est le premier ministre polonais et qui est un peu un de ses alliés autour de la table de droite dure. Et du coup, il l'interpelle tout de suite, il le bloque alors que ça faisait à peine 20 secondes qu'il parlait. Et là, il y a des invectives, il y a Emmanuel Macron qui dit « Si, si, Charles a mentionné Mateusz et il l'a félicité ». Il y a Xavier Bettel, qui est luxembourgeois, qui dit « Oui, oui, il l'a dit ». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les coalitions. Là, ces trois-là, Bettel, Macron et Michel, ce sont trois libéraux, ce sont trois francophones. Ils se serrent les coudes alors que le Hongrois, lui, il aidait le Polonais. Donc, ils se tirent tous dans les pattes et on croit que c'est une instance diplomatique, où c'est « cher monsieur, monsieur le président », etc. Non, pas du tout. Ils se tutoient, ils s'appellent par leur prénom et ils se lancent des mots d'oiseau.
Voilà ce que ça dit des rapports entre les uns et les autres, au-delà du bizutage. Qu'est-ce qui se passe une fois que les micros sont fermés, que les caméras sont parties et que les portes sont fermées?
C'est ça qu'on a vu là. Normalement, les portes sont fermées. Notre caméra était là et vraiment, ils se disent les choses cash. Alors, ils ne se voient pas que dans cette grande salle. Ah. Une grande partie des négociations, ça se passe en bilatéral. Ça se passe dans le bureau de Charles Michel, dans lequel on a pu filmer. Ça se passe dans les salles de délégation. Et parce qu'à 27, c'est difficile de négocier. Donc, ce qu'ils font, c'est un premier tour de table. Chacun donne sa position. Et puis ensuite, ils se réunissent en groupe. Et là, pareil, ça castagne. Et après, une fois qu'ils arrivent à des compromis, eh bien, ils se retrouvent à 27, ils les mettent sur la table, ils proposent, il y a encore un tour de table, etc. C'est comme ça que ça fonctionne.
Juste un mot, un petit compliment. C'est incroyable la manière dont c'est parfois pénible, les sujets sur l'Europe, et la manière dont c'est passionnant, celle avec laquelle vous racontez ceci, Yann-Anthony Noguès.
C'est grâce à Jean Quatremer et à son talent aussi dans le documentaire.
Ce sont les intérêts nationaux qui priment, on l'a bien compris, et tout l'enjeu pour Charles Michel, on y revient, est de les concilier avec les intérêts de l'Union européenne. Exemple, avec les discussions qui ont été menées au sujet du climat, on est fin 2019, il y a 26 des 27 membres de l'Union qui sont prêts à prendre des engagements contraignants pour atteindre la neutralité carbone en 2050, tous sauf un, celui qui résiste, c'est la Pologne. La Pologne qui utilise encore beaucoup de charbon pour produire son électricité.
80%.
Voici le récit du Premier ministre polonais et de Charles Michel.
Ça va moins bien que ce que j'avais espéré. Je vois que dans la dynamique de la réunion, les réticences polonaises attendues deviennent des résistances.
Je ne veux pas de licenciement massif provoqué par une fermeture trop rapide des mines de charbon.
Ça s'oriente plutôt vers un durcissement de la position. Et c'est en ça qu'assez vite, dans la dynamique de la réunion, j'ai l'impression que je dois parler en tête à tête avec le Premier ministre polonais. Il est fermé et il me donne l'impression qu'il n'a pas de marge de manœuvre.
26 sur 27, c'est comme si on était à 0 sur 27 si la Pologne ne veut pas signer. La situation est tendue, rien n'est fait, mais quelques heures plus tard, la situation se débloque.
Le président du Conseil européen marche vers la salle du Conseil où les 26 autres chefs d'État sont en train d'attendre. Et au même moment, le Premier ministre polonais arrive et se dirige dans l'autre direction parce qu'il souhaite avoir à nouveau un tête-à-tête. Ce chassé-croisé est cocasse, mais cela montre clairement à quel point tout est très soudain et changeant.
On a un aparté assez bref. Et là, j'ai une réponse qui me permet de retourner en salle et de faire une proposition.
On a aussi entendu le porte-parole de Charles Michel. Qu'est-ce que cette séquence raconte des négociations à Bruxelles? Comment les choses peuvent se libérer, se dénouer?
En fait, ce qui est fou, c'est que les intérêts en jeu sont énormes. Quand on parle de la neutralité climatique, ça, d'ici à 2050, ça révolutionne une économie. Et on se rend compte qu'il y, il y a une grande partie de ces négociations, de ces discussions qui tiennent au rapport humain, qui tiennent aux liens qui ont pu être tissés entre Charles Michel et le Premier ministre polonais avant cet entretien, et qu'après, si jamais il se loupe dans les couloirs, si jamais... parce qu'on voit dans le documentaire un moment où Charles Michel essaye d'appeler le Polonais, et le Polonais ne lui répond pas au téléphone, et on a pu filmer ces images-là, et c'est fou. Et ce sont des choses qui nous arrivent au quotidien, mais on ne se dit pas qu'entre les chefs d'État, ouais, ça arrive aussi.
Vous dites qu'il y a des sommes en jeu énormes, il y a l'argent qui facilite pas mal de choses, parce que là, en l'occurrence, les 27 devaient se répartir 1000 milliards d'euros d'aide à la transition écologique.
Alors, 1000 milliards d'euros, effectivement, c'est le budget européen sur 7 ans. Là, les Polonais, eux, mettaient la barre très haut. Ils disaient « Ah, nous, ça va nous coûter 700 milliards d'euros pour pouvoir faire cette transition écologique, parce que nous, on part de plus loin que les autres. » Et puis, finalement, l'enveloppe qui est mise sur la table pour la transition, c'est une centaine de milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent.
Il y a eu des négociations très tendues sur le climat, mais pas seulement. Il y a eu l'affaire des vaccins, il y a eu l'affaire du Sofaguette. Vous êtes au courant de tout, ou presque, Yann-Anthony Noguès.
Oui,
très beau documentaire ce soir en prime time sur France 2, c'est assez rare pour être signalé. On continue d'en parler dans Culture Média.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bruxelles, ton univers impitoyable, documentaire à voir ce soir sur France 2 à 21h, réalisé par Yann-Anthony Noguès, notre invité. Il y a une partie de ce doc consacré à l'Europe, consacré spécifiquement au fonds de relance. C'est quand c'est étonnant, vous êtes à l'Elysée avec Emmanuel Macron et vous filmez une réunion en visioconférence avec Angela Merkel, qui a priori ne vous voit pas. Et là, on se dit, mais comment vous avez pu garder une telle séquence au montage? Personne en Allemagne, personne à l'Elysée vous a dit, il faut couper cette séquence?
C'est difficile de faire ces choix-là. Ce qui a été difficile aussi, c'était quand on était dans le bureau de Charles Michel et qu'effectivement, on est les témoins de beaucoup d'échanges confidentiels. Il y a certaines parties qu'on ne peut pas laisser parce que c'est trahir la confidentialité, c'est trahir la confiance qui nous est donnée. En fait, on tourne un petit peu comme si on était dans un cabinet d'avocat, ouais, ou dans un cabinet médical. C'est-à-dire qu'il y a des informations qu'on ne peut pas divulguer. Après, il y en a d'autres... Non, mais là, il y a partie du domaine public. C'est de la stratégie.
Il y a un hiatus intrinsèque, parce que si on vous laisse filmer, ça veut dire que vous filmez. Donc dans ce cas-là, on ne vous laisse pas filmer. Comment ça se joue les gens?
C'est-à-dire que moi, en fait, pour pousser... C'est assez inédit, ce qu'on a pu faire.
Je sais. Donc, d'où ma question.
La façon dont on a obtenu cette confiance, notamment au Conseil européen, c'est en disant « laissez-nous filmer, on fera preuve de responsabilité, de discernement, on est là pour raconter une histoire, on n'est pas là pour faire de la géographie, attention, on n'est pas là pour dire à quel point vous êtes formidable, on n'est pas là non plus pour faire de la dénonciation, on n'est pas là pour regarder tout ce qui ne va pas et pour retourner les choses contre vous, on est là pour raconter une histoire et on avait un accord ». En gros, c'était ne pas dévoiler des choses qui puissent, avant la conclusion de l'accord des Européens pour le coup, ne pas dévoiler des choses qui puissent perturber la négociation.
Vous revenez également sur un autre dossier de la crise sanitaire, celui des vaccins. Dossier à enjeu présenté dans votre film par le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.
Le moment de vérité qu'on pourrait avoir pour le Covid, c'est le moment du vaccin. Si chaque pays dit « ce sera mon pays d'abord pour vacciner ma population totale », on est mal barré. Si on arrive à dire « l'Europe est là », et l'Europe achète les vaccins, parce que l'Europe sera beaucoup plus fort que si moi je dis je vais acheter tout seul, parce que dans ce cas-là on va rentrer dans une surenchère en plus, où certains pays vont dire moi je paye 10, moi je paye 100, moi je paye 1000 pour, pour être le premier. Je pense que là c'est un moment où l'Europe peut vraiment montrer sa plus-value.
Et cette plus-value, l'Europe va finir par la porter après un démarrage difficile. Ça s'est passé comment ? Ça vous fait sourire,
ben oui,
un démarrage difficile.
Parce que c'est le lièvre et la tortue, cette histoire de vaccin. Parce que les Britanniques, eux, ils sont allés très vite. Tout simplement parce que les Britanniques, malgré le Brexit, simplement parce que les Britanniques, ils ont accepté toutes les conditions des labos. Ils ont signé très vite avec les labos. Ils ont mis beaucoup de cash sur la table, alors que les Européens, ils ont fait un achat groupé. C'est la Commission qui a négocié pour les 27. Mais ils ont dit, attention, on a des lignes rouges. Attention, ça doit ne pas être cher. Attention, si jamais il y a des effets secondaires, ce seront les labos qui porteront la responsabilité. Attention, on ne vous donnera pas toutes les données personnelles des Européens. Alors que les Israéliens, les Américains, les Anglais, eux, ils ont tout lâché. C'est pour ça que c'est allé si vite. Mais après, voilà, l'Europe, il y a le principe de précaution, il y a la responsabilité, il y a la prudence. Et c'est pour ça que parfois, c'est un petit peu plus long.
Et ça encore, pendant qu'on s'énervait ici devant la télé, ces choses-là n'étaient pas dites. Ou alors, il fallait trouver ça en page 28 de tel ou tel journal.
C'est pour ça qu'on fait des documentaires pour expliquer ça.
Passionnant. Dernier sujet abordé dans votre documentaire, le Sofagate. Alors, je rappelle les faits. Un incident qui est intervenu il y a un mois, Ankara, lors de la visite en Turquie de Charles Michel, le président du Conseil dont on a parlé, et d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce qui est différent, il y a le Conseil, la Commission. Les deux dirigeants sont reçus par le président turc. Ils entrent dans une grande salle pour discuter. Et le reste est raconté par Maya de la Baule et les journalistes pour Politico et par Jean Quatremer.
On voit clairement Charles Michel se précipiter vers un fauteuil. Et on voit la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, sidérée de découvrir qu'elle n'a pas de fauteuil.
C'était très fort, ce... C'était le... Dis donc, je comprends pas ce qui se passe, là, les amis. Il faut que ça change. Enfin, réveillez-vous.
L'image est désastreuse. Elle continue de poursuivre Charles Michel, mais... Ce qu'elle montre, cette image, une femme humiliée par deux hommes, ne correspond pas tout à fait à ce qui s'est réellement passé et ce que vous racontez. Pourquoi Ursula von der Leyen s'est-elle retrouvée dans cette position ?
C'est un vrai moment House of Cards, ça. C'est Ursula von der Leyen, quand on ne connaît pas vraiment les personnages, on se dit « Oh, cette pauvre dame qui se retrouve là face à ces deux messieurs. » Mais je veux dire, c'est une dure Ursula von der Leyen. Et en fait, elle s'est retrouvée là et elle s'est dit « Je vais saisir le moment politique pour... » pointer du doigt l'attitude du Turc, de l'autocrate turc qui est sorti de la Convention d'Istanbul. Enfin bref, il y a des problèmes de rapport homme-femme. Et de Charles Michel, avec qui elle est dans une course à l'échalote. Parce que vous l'avez dit, il y a le Conseil européen et il y a la Commission européenne. L'un représente les États, l'autre, c'est l'intérêt général, c'est le gouvernement européen. Et elle ne veut pas que Charles Michel ait la prééminence. Sur elle. Ça l'embête que ce soit lui qui soit à côté du président turc. Elle voudrait que les deux chaises soient côte à côte. Mais elle est en retrait protocolairement. C'est la règle. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas envoyé à Ankara, avant cette visite, son propre service du protocole. Donc, la visite n'a pas été bien préparée pratiquement, concrètement de son côté. Elle se rend compte du problème sur le moment et elle joue magnifiquement le coup politiquement. Et elle joue les réseaux sociaux. Elle joue l'image. Et...
Vous voulez dire qu'elle voit ça et qu'elle se victimise en quelque sorte ?
Je pense, je ne suis pas dans sa tête, mais clairement oui, parce qu'ensuite, dans les semaines qui ont suivi, parce que ça s'est passé il y a 3-4 semaines, elle n'a pas pris Charles Michel au début au téléphone. Et puis à chaque fois qu'elle est passée devant le Parlement européen, elle a joué le côté outragé et elle a dit « c'est parce que je suis une femme qu'on m'a fait ça ». Or, ce n'est pas le cas. Protocolairement, c'était sa place et si elle préférait une chaise plutôt que le sofa, bah c'est son service du protocole qui aurait dû le dire et il n'était pas là.
Ce documentaire est en réalité une version enrichie d'un film qui avait été déjà diffusé sur LCP fin janvier. film dont le titre a été changé.
Oui, ça s'appelait Sommet... c'est drôle que vous parliez de ça, Philippe, parce qu'en fait, ça s'appelait Sommet dans les secrets des négociations européennes. Et c'était en vous écoutant, ici, sur Europe 1, j'étais dans ma voiture, et puis j'entends Eva Rock qui dit...
Dans Culture Média.
Ouais, dans Culture Média, et j'entends Eva Rock qui dit... Oh, Philippe, et honnêtement, là, le service de presse de LCP m'a envoyé ça, Sommet dans les secrets des négociations européennes. Honnêtement, le titre, j'avais pas envie de regarder. Et puis j'ai regardé, j'ai trouvé ça passionnant. Et là, je me suis dit, bon, on a un souci avec le titre. Et c'est pour ça que pour cette version, effectivement, enrichie, remontée intégralement, pour France 2, eh bien, on a appelé ça Bruxelles, ton univers impitoyable. Ça vous plaît ?
Ouais, ça va.
C'est mieux comme titre.
Bon, bah, déjà, on s'en souvient. Vous avez fait une petite référence à Dallas qui avait échappé à personne.
Série.
Ce doc a une histoire étonnante. Personne n'y croyait au début, sauf LCP et la RTBF.
Absolument. C'est Guylaine Chenu, Bertrand Delay, du côté de LCP, qui ont été très courageux, qui ont cru quand on leur a dit « Oui, on veut faire quelque chose d'excitant sur l'Europe », personne n'y a cru. Il y a plusieurs chaînes qui ont refusé le projet. Ouais. Et eux, ils y ont cru. Et on leur a dit « On va s'inspirer d'une série de Netflix qui s'appelle Drive to Survive, qui est consacrée à la Formule 1. »
Ah, j'adore.
Ah, vous aimez bien la Formule 1.
Je suis passionné de Formule 1. Et alors, attendez, autre chose que j'ai appris, vous étiez monégasque.
Oui.
Vous appelez Yann-Anthony Nogues.
Ah, vous sortez les dossiers, là.
Ouais. Vous avez quel rapport avec Anthony Nogues ? Je précise qu'il est l'un des virages les plus célèbres du circuit de Monaco.
C'est le 19e virage, c'est le dernier virage. Effectivement, il porte le nom de mon grand-père qui a créé le Grand Prix de Monaco, le rallye qui a inspiré le drapeau à damier.
Non, j'en reviens pas. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
D'où
je
le lien scié. Entre la Formule 1 et la politique européenne.
Merci beaucoup, Yann-Anthony Nogues. Donc, merci Eva Rock. Bruxelles, ton univers impitoyable, c'est le titre à voir ce soir sur France 2 à 21h. Documentaire suivi d'un débat présenté par Francis Letellier dans le cadre d'une semaine spéciale Europe sur France Télévisions. L'Europe, il en sera également question sur Europe 1. La radio porte bien son nom. Demain, Historiquement Vôtre sera entièrement consacré au sujet. Mathieu Noël et Stéphane Bern vont recevoir Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci monsieur le petit-fils, j'en reviens pas, de parler un petit morceau d'histoire, un petit morceau de virage. Dans un instant, on va parler d'une nouveauté, l'incontournable Guide du Routard qui sort en magazine. Nous sommes avec le fondateur des guides, Philippe Gloagen, et la présidente du groupe de presse CMI France qui édite justement ce magazine, Claire Léost. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias.
Bonjour Philippe Gloagen.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur, directeur du Guide du Routard qui existe depuis 47 ans, numéro 1 des guides en France, dans le top 20 des livres les plus vendus au monde depuis sa création. Il s'est vendu 50 millions de titres, juste pour se représenter ça. Il s'en vend un toutes les 8 secondes. Peut-être toutes les 16 avec la pandémie parce que ça baisse un peu les ventes, mais déjà c'est monstrueux. Claire Léost avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour.
Léost. Vous êtes directrice générale de CMI, deuxième groupe de presse français qui édite notamment Télé 7 jours, Elle, version Femina, ou dans un genre totalement différent, Marianne. Et votre actu, c'est le lancement du Routard Magazine. Ça coûte 5,95€, c'est en kiosque et sur abonnement. Claire Léost, dans son édito, Philippe Gloagen, raconte que c'est vous qui lui avez fait cette proposition. Pourquoi cette décision ? C'était quoi votre idée ?
Alors en fait, on réfléchissait à ce qu'on pouvait proposer aux lecteurs en sortie de confinement. Donc on s'est dit, nous, de quoi on a envie, de quoi on va avoir envie quand on va sortir de cette période. Mmh. Et tout de suite est venue l'idée de l'évasion, du tourisme, du voyage, d'aller à la rencontre des autres, d'ouvrir nos fenêtres. Et donc voilà, c'est parti de cette envie qu'on avait de proposer un magazine pour se déconfiner. Et j'ai tout de suite pensé à Philippe, au Routard.
CMI, vous éditez des magazines, donc c'est oui. Normal de vous tourner vers la presse papier. Mais normalement, quand on fait un nouveau produit, c'est qu'il y a un manque. Pourquoi ajouter un vecteur à une marque, le Routard, qui marche déjà très bien ?
Alors en fait, on voulait proposer quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il y a les guides qui marchent très bien. Mais le magazine, c'est vraiment mettre en avant des choses pas forcément connues, des aspects pas forcément connus dans les guides. Donc des endroits qu'on ne connaît pas, loin des foules. Les guides sont très très complets. Là, on voulait vraiment une sélection, la sélection du Routard, le meilleur du meilleur. Sur la France, évidemment, puisqu'on est dans une période où on ne peut pas trop voyager en dehors de France. Ouais. Donc on a essayé de trouver en France les endroits qu'on ne connaît pas.
Alors maintenant, on va parler du contenu. Je reviens à votre éditorial, Philippe Gloagen. Vous écrivez « Quand on écrit un guide du Routard, on met en route un bulldozer. À l'inverse, concevoir un magazine, c'est comme cueillir des champs, des fleurs dans les champs, c'est-à-dire ».
Eh bien, c'est que quand j'envoie un collaborateur sur une grande ville ou une région pour refaire la nouvelle édition du Guide du Routard, il visite tous les hôtels, tous les restaurants. C'est un bulldozer qui va lentement et qui donne une masse d'informations considérables. Et parfois, pour quelqu'un qui va rester quelques jours simplement dans un endroit, il est un peu perdu par les 100 ou 200 pages de texte. Le magazine du Routard, c'est le parti pris de nos rédacteurs. C'est la même équipe la rédaction du guide du routard, qui va choisir la meilleure adresse, qui va choisir l'endroit peu connu. On parle des menhirs de Carnac dans le guide du routard Bretagne, bien entendu, mais là, avec le Routard Magazine, on les envoie à Monteneuf, qui est à 20 km au nord de Carnac, des menhirs absolument inconnus, perdus dans les champs et la forêt. Et ça, c'est...
Je souris, vous savez pourquoi je souris? Parce que j'ai fait du vélo autour de Carnac, je ne savais pas que ça existait, cet endroit, ben ouais. Sinon j'y serais allé.
Monteneuf.
Le titre en une, le voici, La France qu'on aime, je dis le voici parce que je montre à la caméra, vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. Le titre en une, c'est celui-ci, La France qu'on aime, nos bons plans, loin des foules. Et là, c'est le hiatus premier de ce guide, le hiatus, si je vous dis, ontologique. Vous vendez à des millions d'exemplaires la petite adresse que personne ne connaît. Résultat, des millions de gens la connaissent. Quand vous faites le dossier La Bretagne à l'abri des regards, si on a le guide, ces regards-là sont de moins en moins à l'abri. Mais comment sortir de ce hiatus?
Mais parce qu'on étale, c'est-à-dire que dans ce magazine, il y a 50 idées originales. On vous parle d'une balade à vélo le long du canal de Hillerance, qui est un canal magnifique, très peu connu, qui va jusqu'à Dinan.
Mais attendez, vous avez compris le sens de ma question. Je vous souhaite de vendre 200 000 exemplaires. À supposer que vous en vendiez même 20 000, si sur les 20 000, il y en a 10% qui vont faire la balade, il va y avoir 2000 personnes sur le petit sentier à vélo.
Oui, mais ce n'est pas le même jour.
Il y a beaucoup, beaucoup d'adresses. Donc, il y a beaucoup d'adresses.
Mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et Philippe Gloguen était un des premiers à lutter contre le surtourisme.
Exactement.
Comment faire la part des choses?
On voulait justement envoyer nos lecteurs loin du tourisme de masse, donc sur les petits marchés. Mmh. On voulait proposer du tourisme à vélo, du tourisme en van, à mobylette, à pied. Toutes les formes de tourisme possibles, toutes les régions sont représentées. Donc vraiment, il y a une richesse telle qu'on ne va pas tous se retrouver sur les mêmes sentiers cet été.
C'est étalé sur 3 mois.
Ouais. Donc. Il y a aussi les grottes de Lascaux, les grottes de Chauvet, il y a des vacances sauvages dans les Pyrénées. Puis alors quelque chose qui n'existe pas dans le guide du routard, des interviews, par exemple là en l'occurrence, Jean Le Cam. Pourquoi des interviews et ensuite pourquoi lui? Qui veut répondre? Qui a choisi?
Alors nous, c'était vraiment une demande qu'on a faite au routard d'avoir des histoires humaines. On voulait aller à la rencontre de personnalités connues par le routard. Donc il y a par exemple deux personnes qui ont quitté Paris, qui étaient des cadres pour ouvrir un gîte rural. Ouais. Il y a une guide de refuge dans les Pyrénées, en haute montagne. Donc,
une libraire qui ouvre l'été. Des gîtes de montagne, donc c'est des expériences de vie formidables. C'est pour que le lecteur, en lisant ça, se dise « Moi, j'ai 50 ans, mais tiens, ouvrir un gîte, pourquoi pas moi ?» Eh bien, donc, on fait rêver sur une partie très écrite, l'interview, mais après, le guide du routard réapparaît et on donne des conseils. Si vous voulez ouvrir des chambres d'hôtes, voilà ce qu'il faut faire, voilà nos conseils, attention à telle difficulté. Et donc, on mâche le travail de nos lecteurs.
Encore beaucoup de choses à dire au sujet de ce guide du routard. Il y a aussi d'une interview. Je n'ai pas encore parlé de Jean-Pierre Pernaut. Tiens, je vais en parler juste après ça. On marque une pause. Nous sommes avec Claire Léost, la directrice générale de CMI France, et de Philippe Gloguen, président et fondateur du guide du routard, qui sort en magazine. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Le guide du routard, vous connaissiez peut-être le site internet, 6 millions de visiteurs uniques par mois, donc il y a du monde qui le connaît. Le Routard Magazine, ça vient de sortir, c'est un trimestriel. C'est un trimestriel d'ailleurs, c'est pas écrit dessus. Je suis Claire Léost, c'est la directrice générale de CMI France, et Philippe Gloguen, le fondateur du Routard. Pourquoi c'est pas écrit la trimestriel?
Alors, on voulait faire un magazine au rythme des saisons. Donc on s'est dit 4 numéros par an, c'est bien.
Ouais.
Et en même temps, on sait que si ça fonctionne, on peut rapidement accélérer et passer à 6 numéros, voire à un mensuel. Donc disons que c'est...
Voilà, parce que c'est écrit en tout petit, en catimini, page 4, en tout en bas de la page 4, le numéro 2 du routard sera disponible dès le 29 juillet 2021.
Ça, c'est certain.
Mais on n'en sait pas plus.
Après, pour la suite, on va voir. S'il y a une forte demande, on peut tout à fait accélérer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est dit que le rythme des saisons pour le tourisme...
Il suffit de travailler plus.
D'accord.
Voilà,
alors, je l'ai bien regardé, je l'ai bien lu et j'ai eu l'impression d'être dans Automoto en 84. En couverture, il y a une 2 chevaux en majesté. Après, il y a un dossier sur les vans avec un minibus Volkswagen qui se fait plus, le minibus de Scooby-Doo. Et il y a même tout un reportage consacré à la mobylette qui n'est plus fabriquée depuis 30 ans. Pardon de dire ça, mais vous avez un moyen bilan carbone, Philippe Gloguen.
Alors, dans ce magazine. La mobylette...
Ah, ça pollue, hein.
Ça pollue, mais c'est des balades de 20 km.
Ouais, c'est vrai.
C'est quand même la seule agence de voyage qu'on ait trouvée en Ardèche qui organise des tours en mobylette. Et quand vous louez la mobylette, ils vous donnent un roadbook. C'est dans des endroits absolument fabuleux. C'est très vintage. Ouais. C'est très routard. Et on est assez fiers d'avoir trouvé cette agence.
Alors, il y a également des rubriques annexes. Il y a un entretien avec Jean-Pierre Pernaut. Et puis alors, dans le dossier Bretagne, il y a un choix de 5 romans autour de la Bretagne. Alors, il y a des best-sellers, Lorraine Fouché face à la mer immense, Sophie Talmen, qu'on avait reçue dans cette émission, une BD qui raconte la Bretagne, un polar Bretzel et beurre salé, et aussi un roman, Le passage de l'été, d'une certaine Claire Léost. Il est bien précisé que vous êtes la co-éditrice de ce magazine, mais est-ce que c'était une commande ? C'est vous qui avez demandé aux troupes de faire un roman, un article sur votre roman,
Elle Philippe est Goulaguen. Patronne d'un groupe de journal, elle n'est pas patronne du Guide du Routard. Étant bigoudins tous les deux, c'était un clin d'œil que j'ai voulu faire à ma nouvelle copine Claire.
Vous l'avez lu son livre ?
Oui, je l'ai lu. Je peux vous en parler ?
Non, c'est bon. Claire Léost sur la couverture, contrairement... Oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas la régularité, vous l'avez dit, c'était un bimestriel. Vous allez faire un test, vous attendez combien ? La mise en place, elle est de combien ? Alors, et vous attendez quelle vente ?
Pour l'instant, on a mis 120 000 exemplaires, donc évidemment, on espère en vendre le maximum, sachant que pour notre dernier lancement, qui était le magazine de Sophie d'avant, on en avait mis aussi 120 000 exemplaires, et on a retiré 100 000 exemplaires pour faire face à la demande. Donc je souhaite à Philippe et aux équipes de Routard le même succès. Et c'est très rare de retirer un magazine aujourd'hui. Donc
Deuxième numéro de Sophie d'avant, c'était pas seulement un feu de paille, puisque le deuxième numéro s'est vendu à 120 000 exemplaires, ce qui est une performance. Oui. Ça continue à ce rythme ?
Oui, absolument. C'est un vrai succès. C'est la personnalité de Sophie d'avant qui a rencontré son public. Donc un très beau succès.
Petite question média, petite question business. Claire Léost, vous avez également lancé un magazine immobilier autour de Stéphane Plaza d'M6. Bienvenue chez vous, ça s'appelle. Les ventes, c'est bien ? Vous êtes
contente ? Ce sont mes concurrents qui ont lancé ce magazine. C'est Prisma. Alors
vous savez quoi ? J'ai lu un papier qui disait ça, et le papier disait, je crois que j'ai lu ça dans Strat, qui disait, ils ne donnent pas les chiffres. Donc c'est vos concurrents,
Mes concurrents et amis néanmoins, mais je ne peux pas vous donner les chiffres, je ne les ai pas.
On va parler des chiffres. Philippe Goulaguen, comment se porte le Routard ? Parce qu'avec la pandémie, les ventes du Routard ont baissé de moitié, de 51%. Alors là, je cite encore ma source, Stratégie 27 avril, 2,5 millions de titres vendus en 2019, et seulement 1,2 million de titres en 2020. Déjà, est-ce que vous avez dû licencier ?
Absolument pas. Bonne question. Le statut des auteurs, c'est qu'on est très libre, mais on n'a pas le droit au chômage. Donc, on n'a eu aucune aide de l'État, ni rien. Donc, c'est Philippe Goulaguen, personnellement, qui paye l'ensemble des rémunérations depuis un an. Je suis fier de pouvoir le faire. Je suis fier d'aider mes équipes. Et Hachette, de son côté, s'est engagé...
Hachette qui distribue.
Qui distribue et qui édite. À pilonner tous les bouquins qui n'étaient pas vendus. Merci Hachette, ils l'ont fait. Et donc maintenant, vous avez tous les jours des guides Routard de la nouvelle édition qui sortent là, toutes les semaines. Et c'est des guides qui sont refaits et les anciennes éditions ont été pilonnées. Donc voilà, il y a eu une entraide et je suis fier de l'avoir assumée.
Combien de salariés au Routard ?
Alors, il y a plusieurs équipes. La rédaction en chef, on est 19. Après les pigistes, il y a une cinquantaine, entre 50 et 80 pigistes. Vous avez 20 personnes sur routard.com qui sont des salariés que j'ai en collaboration avec Hachette. Et tous les techniciens et salariés Hachette qui sont mes éditeurs, les maquettistes, les cartographes, attachés de presse. Au total, le Guide du Routard fait vivre à peu près 120 personnes. Mais aucun licenciement.
Mais je dois dire quand même, rien que vendre 1,2 million de titres en 2020, c'est juste un exploit. On n'arrive pas à croire que c'est la moitié de votre étiage normal. C'est juste totalement prodigieux. Claire Léost, vous êtes la directrice générale de CMI, qui édite notamment l'hebdomadaire Marianne. Et en ce moment, il y a un petit tiraillement à Marianne, puisque le rédacteur en chef adjoint Perico Légas vient d'annoncer qu'il serait tête de liste départementale dans le Val-de-Loire sur la liste régionale du ministre Marc Fesneau, Modem soutien de Macron. La rédaction était vent debout. Est-ce que ça pose pas des problèmes de déontologie ?
Alors en fait, il y a une loi qui encadre vraiment les salariés qui souhaitent s'investir dans une campagne politique, parce que je pense que ça doit être possible pour tout citoyen qui a envie de s'engager. Donc en l'occurrence, ce qui est prévu, c'est qu'ils prennent des congés pendant cette période, donc il ne sera plus rédacteur rédacteur en chef, il n'interviendra plus dans le contenu du journal. Donc il est... nous, on a simplement respecté la loi, on lui permet d'avoir cet engagement. Et évidemment, pour que ça ne pose pas de problème dans le journal, pendant cette période, il n'est plus au journal et il est en congé du journal.
Et sur le fond, parce que Marianne, ce n'est pas un journal comme les autres, ce n'est pas comme si vous faites un journal de cuisine. D'ailleurs, il avait aussi la chronique gastronomique ou un journal de Formule 1. Oui. Est-ce que ça ne pose pas un problème quand Marianne est un journal qui a attaqué, qui tire à boulet rouge sur l'exécutif, sur le gouvernement, et lui, Perico Legas, s'engage auprès d'un encarté Modem?
Alors, disons que c'est un spécialiste de la gastronomie, donc c'est notre chroniqueur gastronomique, il est très connu pour ça.
Mais
donc
c'est vrai que c'est moins sensible. Et ses papiers, évidemment, son champ d'intérêt s'est étendu, et notamment parfois à la politique.
Oui, alors après, il y a une diversité des opinions à Marianne, comme partout. Tout le monde n'est pas anti-Macron à Marianne, loin de là. Hein, je pense que il ne faut surtout pas caricaturer l'équipe. Pour nous, ce qui était important, c'était de respecter la loi, qu'il puisse avoir cet engagement politique, mais qu'en même temps, Marianne soit complètement protégée et indépendante par rapport à cet engagement. Donc on a trouvé cette solution où on le met en congé pendant toute la durée de la campagne. Et voilà. Donc,
et s'il est élu
Évidemment, s'il est élu, il quittera le journal. Il fera sa carrière politique.
Mais... D'accord, il est tête de liste, donc il a de fortes chances de quitter le journal.
Oui. Dans ce cas-là, on en reparlera après la campagne.
Ouais. Et il est déjà conseiller municipal, me dit Antoine Janton, dans l'oreillette, notre rédacteur en chef. Philippe Goulaguen, vous êtes arrivé dans ce studio en me disant « J'ai une info, ça vient de tomber ce matin ».
Eh bien, j'ai eu un coup de fil du patron de Voyageurs du Monde hier qui vient de m'annoncer qu'il a retrouvé les deux tiers de son chiffre d'affaires. Donc ça y est, on est vraiment au bout du tunnel. Les inscriptions auprès des agences de voyage se font. Alors évidemment en France, puisque nous, on sort notre magazine sur la France essentiellement. Mais il y a le redémarrage de l'Europe avec la réouverture de la Grèce totalement, d'Italie, l'Espagne. Ça y est,
tourisme
la liberté, on sort de prison et c'est le scoop que je voulais vous annoncer. Voilà la bonne nouvelle.
Quel joli scoop. Merci beaucoup Philippe Glaguen, fondateur et directeur du Guide du Routard, numéro 1 des guides en France, et Claire Léost, directrice générale de CMI France, qui a pris l'initiative d'éditer ce magazine, un trimestriel, mais ça va peut-être être plus qu'un trimestriel, passer de 4 à 6 numéros par an. Ça s'appelle le Routard Magazine. C'est pour la modique somme de 5,95 € par trimestre. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue.
Merci.
Il y aura le rappel des titres. On va recevoir ensuite, après ça, Eva Rock pour son zapping du lendemain, pour un beau doc sur les jeunes isolés, et Bertrand Chameroy pour son écran de veille consacré à Non-Stop People. Notre invité, c'est l'auteur du Club des Incorrigibles Optimistes, Jean-Michel Guenassia, énorme best-seller. C'est la suite qu'il publie désormais. Ça s'appelle Les Terres Promises, toujours chez Albin Michel. Et puis, dans Les Indispensables, une découverte musicale et une rencontre entre art et polar. A tout de suite.
Culture Média, Philippe Vandel.